Excellent réveil à tous, voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
En Bolivie, 5 jours après le vote, le résultat officiel donne le président sortant Evo Morales réélu au premier tour. Les opposants ont à nouveau dénoncé des fraudes. Reportage dans les rues de La Paz dans ce journal.
Oui, les États-Unis, l'Union européenne, plusieurs pays d'Amérique latine menacent de ne pas reconnaître la validité de cette réélection. Parmi eux, l'Argentine, où une élection présidentielle aura lieu dimanche. Nous irons à Buenos Aires dans ce journal.
En Irak, plusieurs centaines de personnes ont bravé la peur hier et sont retournées manifester 2 semaines après la fin du vaste mouvement de contestation.
La répression avait fait 150 morts, nous irons à Bagdad dans ce journal. En France, un peu plus d'une semaine après l'accident de TER dans les Ardennes qui avait entraîné plusieurs jours de grève, un rapport interne à la SNCF propose de tirer les leçons à exposition de ces précisions avec Anne-Laure Jumet. Et puis, faut-il accorder une personnalité juridique aux animaux? La question a été posée lors d'un colloque qui s'est tenu à l'Institut de France il y a quelques jours. Cette question est de plus en plus présente dans le débat public. Ce sera l'objet du billet politique de Stéphane Robert juste après ce journal. C'est désormais officiel en Bolivie. Evo Morales est réélu selon les résultats publiés par le tribunal supérieur électoral, s'appuyant sur le dépouillement de près de 99,99% des bulletins selon son communiqué officiel. Il n'y aura donc pas de second tour. Evo Morales a remporté l'élection, mais une élection contestée par l'opposition qui dénonce une vaste fraude électorale. Les opposants sont encore descendus dans les rues hier soir dans plusieurs villes du pays. Reportage dans la capitale La Paz avec notre correspondante Alice Campagnol.
Dans les rues de La Paz, hier soir, ils étaient des dizaines de milliers à crier « Evo, encore une fois, certainement pas ». Pour les manifestants, c'est impossible, Evo n'a pas pu gagner dès le premier tour.
C'est une fraude, c'est sûr à 100%. Le minimum que devrait faire Evo maintenant, c'est d'accepter un second tour. Qu'il y ait 10 ou 11 points de différence entre les candidats, c'est une fraude. Nous ne sommes pas stupides.
Carlos Mesa, le principal candidat d'opposition, s'est exprimé dans la soirée sur les réseaux sociaux.
Nous sommes à un tournant de l'histoire. Je veux vous dire tout d'abord de ne pas baisser les bras. Ensuite, de rester en action. Et enfin, que je suis avec vous. Ces manifestations pacifiques et démocratiques ne doivent pas cesser.
Si l'appel à la mobilisation est pacifique, l'ambiance, elle, est électrique. Les manifestants veulent en découdre. On entend souvent crier « pas de violence », mais beaucoup ne voient pas d'autre alternative.
Je ne crois pas que des mesures pacifiques puissent être efficaces. Ce n'est pas comme ça qu'on obtiendra du changement dans ces situations où la démocratie est en danger. Je crois que je ne suis pas le seul à vouloir recourir à la violence.
Et il y a bien eu des heurts avec les forces de l'ordre en fin de soirée ici à La Paz. Quant à la ville de Santa Cruz, bastion de l'opposition, elle entame aujourd'hui son 3e jour de grève générale.
Alice Campagnol à La Paz pour France Culture. Analyse aussi à retrouver sur franceculture.fr avec la revue de presse internationale de Camille Magnard. L'Organisation des États d'Amérique latine et l'Union européenne avaient réclamé, eux, l'organisation d'un second tour au vu des irrégularités observées, notamment l'arrêt du décompte des voix pendant toute une journée lundi. Parmi les pays qui ont menacé de ne pas reconnaître la validité de la reconduction du président Morales, il y a l'Argentine. L'Argentine où les habitants se préparent eux aussi pour le premier tour de l'élection présidentielle dimanche. Lors des primaires en août dernier auxquelles tous les Argentins ont participé, Macri, le président sortant et candidat, n'avait reçu le vote que d'un électeur sur 3. Face à lui, l'opposant péroniste Alberto Fernandez était arrivé en tête avec près de 48% des voix. La campagne s'est terminée hier et même si certains Argentins continuent à miser sur Macri, beaucoup sont déçus par l'actuel président et sa politique d'austérité qui a conduit le pays à la crise. Reportage de Caroline Vic.
Lors de la dernière élection présidentielle, après 12 ans de kirchnérisme, les Argentins avaient opté pour le changement. Mais en 4 ans, les vieux démons du passé ont réapparu. La dévaluation, l'intervention du Fonds monétaire international, l'inflation, la pauvreté. Pour Carmen, 59 ans et mère au foyer, les conditions de vie se sont fortement détériorées.
Je ressens de l'indignation et de la douleur quand je vois comment vivent les gens. Il y a quelques années, ça allait mieux, on pouvait au moins sortir au restaurant. Mais aujourd'hui, on vit au jour le jour. On ne sait pas ce qui peut se passer demain.
Actuellement, plus de 35% des Argentins vivent sous le seuil de pauvreté. 1 euro, qui valait 15 pesos en 2015, en vaut aujourd'hui 70. L'inflation annuelle s'élève à 55%, la plus haute depuis 1991. Florencia a 17 ans. Pour sa première élection, la lycéenne a décidé de sanctionner le gouvernement.
Vivre le quotidien au collège, dans la rue, sur les réseaux sociaux, participer aux manifestations, voir la pauvreté qu'il y a, l'insécurité, la situation économique, on se rend bien compte que le pays va mal. C'est pour ça que je vais voter pour le favori, Alberto Fernandez, parce qu'il est hors de question que je vote pour Macri, même si on me paye.
Dimanche, les favoris sont clairement le candidat péroniste Alberto Fernandez et sa colistière, l'ex-présidente Cristina Kirchner. L'objectif de Macri, lui, est d'améliorer son score des primaires afin d'éviter une élection de son opposant dès le premier tour et de pouvoir livrer bataille lors du ballottage fin novembre.
Au Chili, le ministre de la Défense annonce l'ouverture d'une enquête sur des accusations de recours excessif à la force de la part de la police et de l'armée lors des manifestations de masse contre le coût de la vie et les inégalités économiques. Une semaine après le début de la contestation et des émeutes qui ont fait 18 morts, la haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili, a déclaré hier qu'elle enverrait une délégation chargée d'enquêter sur les accusations de violation des droits de l'homme. En Irak, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues hier. Elles ont crié des slogans hostiles à la classe politique sur l'emblématique place Tahrir de Bagdad, deux semaines après la fin de la contestation dont la répression a fait plus de 150 morts. À Nassiriya aussi, à 300 km au sud de la capitale irakienne, des manifestants ont appelé à mener des sit-ins jusqu'à la chute du régime. Alors qu'aujourd'hui, plusieurs opposants appellent à une mobilisation massive à Bagdad pour dénoncer le chômage et la corruption dans le pays. Lucille Wasserman nous a de Bagdad.
Si cette journée a été convenue depuis plus d'une semaine maintenant entre les manifestants, c'est parce qu'elle concorde presque jour pour jour avec le premier anniversaire d'Adoul Abdelmahdi à la tête du gouvernement irakien. Ce vendredi, les protestataires tenteront donc de se rassembler une nouvelle fois place Tahrir Square à Bagdad, l'épicentre des récentes manifestations. Si elle s'était essoufflée en début du mois, c'était principalement à cause de la peur qui avait gagné les manifestants. Les violences, les tirs de snipers, les menaces reçues ou encore les assassinats d'activistes les avaient poussés à rester chez eux. Trop de martyrs étaient déjà tombés, disaient-ils. Reste qu'ils attendaient une réponse du gouvernement et que celle-ci ne les a pas convaincus. Les autorités avaient d'abord promis une série de mesures sociales pour satisfaire les demandes des manifestants, sans toutefois établir un calendrier pour concrétiser ces annonces. Elles avaient ensuite mis sur pied une haute commission d'enquête pour faire la lumière sur les violences, mais ces résultats publiés ce mardi ont là encore profondément déçu la population. Les autorités y annonçaient le limogeage de dizaines de commandants militaires, mais ne révélaient aucune information sur l'identité des snipers ou sur les groupes armés qui avaient menacé les manifestants. Les protestataires se rassembleront donc une nouvelle fois avec plus que jamais le soutien de l'opposition politique, notamment de l'influent leader Muqtada Sadr. Reste à savoir donc si ces nouveaux rassemblements auront au moins autant d'ampleur que les précédents.
Lucille Wasserman à Bagdad pour France Culture. Au Liban, la courte allocution du président Michel Aoun n'a pas calmé la colère hier. Au huitième jour d'une mobilisation d'une ampleur inédite dans le pays, le président libanais a proposé de rencontrer des représentants de manifestants. Les annonces économiques lundi du premier ministre Ayeri n'avaient pas non plus endigué le mouvement, alors que la principale revendication est désormais le départ de l'ensemble de la classe politique au pouvoir accusée de corruption.
8h08 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Sophie Delpont, y aura-t-il des élections au Royaume-Uni le 12 décembre? C'est en tout cas ce que souhaite Boris Johnson.
Oui, un appel lancé hier soir par le Premier ministre britannique appelle à des élections générales pour tenter de sortir de l'impasse sur le Brexit. Antoine Gignot, vous êtes le correspondant de France Culture à Londres. Le Premier ministre Boris Johnson a ensuite envoyé une lettre au chef de file des travaillistes, Jeremy Corbyn, dont le soutien est indispensable pour obtenir ce vote.
« Nous devons mettre fin à ce cauchemar, c'est notre devoir », écrit Boris Johnson dans une longue lettre adressée à Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche. Car le Premier ministre n'a pas le choix. Pour déclencher des élections, il lui faut le soutien des deux tiers des députés et sans les travaillistes, il n'a aucune chance de réussir. Ces deux précédentes tentatives se sont soldées par des échecs. Cette fois, pourtant, Jeremy Corbyn laisse planer le doute. Son parti est très divisé sur la question et il ne veut fâcher personne. Si la menace d'une sortie sans accord de l'Union européenne est écarté, dit-il, je soutiendrai totalement cette idée d'élection. Le leader de l'opposition précise qu'il attend, avant de donner sa réponse, de savoir si les dirigeants européens décident de reporter le Brexit. des dirigeants qui gardent l'œil rivé sur les débats au Parlement britannique. Autrement dit, Boris Johnson attend que Jeremy Corbyn décide. Jeremy Corbyn est suspendu à la décision de Bruxelles. Et Bruxelles, avant de trancher, cherche à savoir ce que compte faire le Royaume-Uni.
Antoine Gignot, le correspondant de France Culture à Londres. En Californie, de violents incendies ravagent en ce moment le nord et le sud de l'État où les flammes ont brûlé des milliers d'hectares et contraint à l'évacuation préventive d'au moins 50 000 personnes. Le feu est attisé par des bourrasques jusqu'à 120 km/h. Les 500 pompiers déployés ne parviennent pas à circonscrire l'incendie pour l'instant.
8h10 sur France Culture, c'est la suite du journal de Sophie Delpont. Un peu plus d'une semaine après l'accident de TER dans les Ardennes, la SNCF publie ce matin son rapport interne.
Oui, un rapport pour évaluer donc les circonstances de l'accident. Un document qui sera présenté cet après-midi aux syndicats. Ils avaient exercé leur droit de retrait pour dénoncer des conditions de sécurité jugées insuffisantes. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez pu consulter ce rapport. La SNCF n'est pas responsable, parce qu'on peut y lire entre les lignes. Cela dit, ce rapport fait des recommandations pour tirer les leçons de l'incident.
Oui, effectivement, on explique en creux dans ce document de 34 pages, que l'accident est dû à une mauvaise appréciation du trajet par le convoi routier exceptionnel qui s'est retrouvé devant un passage à niveau manifestement pas adapté à son gabarit. Un passage à niveau qui fonctionnait par ailleurs normalement, soulignent les experts. Quand le conducteur repère cet engin, il déclenche l'arrêt d'urgence, mais la collision est inévitable. Le conducteur a par ailleurs eu les bons réflexes, toujours selon ce rapport interne. Le signal radio étant inopérant du fait de l'accident, il sort de sa cabine pour activer les signaux lumineux et appeler la gare de Charleville-Mézières afin de stopper la circulation des trains. Cela dit, effectivement, certaines leçons doivent être tirées de cet accident, estiment les auteurs du rapport. Il faut notamment protéger les systèmes d'alerte en cas d'accident pour éviter que le conducteur n'ait à sortir du train pour réaliser les procédures d'urgence. Parmi les solutions évoquées ce matin par la SNCF, un dispositif qui permettrait de déclencher automatiquement l'alerte en cas de choc. En revanche, rien sur le renforcement du personnel à bord. La présence ou non d'un contrôleur à bord d'un train ne fait aucune différence en termes de sécurité. Voilà ce que dit ce matin le président de la SNCF, Guillaume Pépi, dans une interview accordée à la presse régionale. De quoi faire bondir les syndicats qui avaient justement estimé que c'était en grande partie le problème.
Merci Anne-Laure Jumet pour toutes ces précisions. Faut-il appliquer en France une réforme des retraites inspirée des pays scandinaves? En matière de système de retraite, l'Europe du Nord est souvent montrée en exemple et Emmanuel Macron se serait inspiré de ce modèle scandinave pour sa réforme universelle à points. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Sophie.
Alors vous signez aujourd'hui le grand reportage de la rédaction diffusé ce soir à 17h. Grand reportage qui vous a mené au Danemark et en Suède, deux systèmes figurant parmi les meilleurs au monde. Qu'en est-il et doit-on les suivre?
Alors, ces deux pays ont entrepris leur réforme de retraite il y a déjà plus de 20 ans. Ils ont aussi pris une dizaine d'années pour la discuter. 10 ans pour arriver à un large consensus à la fois politique, syndical et au sein de la société. Détail qui a quand même son importance, tant le sujet est explosif en France. Sujet qui est capable de faire descendre des millions de Français dans la rue. Là encore, on n'a rien vu de tout ça dans les pays scandinaves. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre chez nous, les Français. Pragmatisme, cohésion sociale, culture du consensus, nous connaissons assez bien leurs points forts.
Et Annabelle, ces réformes de retraite pour lesquelles on a assez de recul maintenant pour en tirer le bilan, ont-elles été pour l'instant donc évaluées comme de bonnes réformes?
Il y a force est constater que le système fonctionne, qu'il est à l'équilibre, qu'il permet de verser des pensions de retraite jugées généreuses. Sans être complètement identiques, les systèmes danois et suédois se ressemblent beaucoup. Ils sont mixtes à la fois par répartition et par capitalisation. Et l'âge du départ à la retraite y est plutôt élevé, 65 ans et demi. Par exemple, aujourd'hui au Danemark, pour atteindre 67 ans en 2021. Alors bien sûr, ces systèmes de retraite ne sont pas pour autant exempts de critiques, ils ne sont pas parfaits, mais il reste source d'inspiration et notamment sur la méthode, comment on propose une réforme et plus largement, comment on aborde la question du vieillissement de la population. On entendra ça ce soir.
Oui, merci Annabelle Grelier. On vous retrouvera donc à 17h pour ce grand reportage de la rédaction sur France Culture, présenté par Aurélie Kiefer et réalisé par François-Charles Domergue. Emmanuel Macron, qui termine aujourd'hui sa visite de 4 jours à Mayotte et à La Réunion, il a annoncé hier un plan pour l'emploi et la formation d'un total de 700 millions d'euros sur 3 ans. Après une visite mouvementée et des échanges vifs avec des habitants, une série de mesures d'aide à l'emploi, notamment l'extension des emplois francs qui permettent le versement d'une prime aux employeurs de chômeurs dans toute l'île, le maintien de 12 000 emplois aidés par an et la possibilité de cumuler RSA et emploi à temps partiel. Un point sur la météo, des averses ce matin signalées sur la Corse, mais les pluies devraient s'arrêter dans la journée. Le soleil devrait dominer la moitié sud, plus de nuages sur le nord et même quelques gouttes le long de la Manche. Les températures sont comprises ce matin entre 11 et 20 degrés. 11 degrés à Amiens, 15 à Paris, jusqu'à 20 degrés, ce sera pour Marseille.